L'info.
L'info juste.
Il est une heure, le flash Anne-Sophie Balbir. Les Australiens de moins de 16 ans commencent à voir leurs comptes Facebook et Instagram supprimés d'Internet. Annonce du géant de la technologie américaine Meta, conformément à la décision de l'Australie d'interdire les réseaux sociaux pour les mineurs d'ici le 10 décembre. Dans les pourparlers sur la guerre en Ukraine, après la rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou, l'émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, vont s'entretenir avec le négociateur ukrainien Roustem Umerov ce jeudi en Floride. Donald Trump assure de son côté que les discussions de mardi ont été très bonnes et que le président russe donnait vraiment l'impression de vouloir mettre fin au conflit. Et c'est l'une des questions sensibles sur un éventuel accord de paix. L'Assemblée générale de l'ONU appelle au retour immédiat et inconditionnel des enfants ukrainiens transférés de force en Russie. La résolution non contraignante a été adoptée par 91 voix pour et 12 contre. Kiev accuse Moscou d'avoir enlevé au moins 20 000 enfants ukrainiens depuis le début de la guerre. En France, l'ONG Reporters sans frontières appelle à ce que la mobilisation pour Christophe Glaize monte d'un cran. Réaction alors que la justice algérienne a confirmé la condamnation à 7 ans de prison du journaliste français. Le directeur général de RSF, Thibaut Brutin, dénonce une décision aberrante. Il faut, dit-il, que tous les clubs de Ligue 1 de football le soutiennent, que les maires mettent son visage au fronton des mairies. Christophe Glaize a 8 jours pour se pourvoir en cassation. Un étudiant ingénieur de 23 ans condamné à un an de prison, lui avec sursis, pour avoir profané la tombe de Robert Badinter. C'était début octobre, quelques heures avant l'entrée au Panthéon de l'ex-garde des Sceaux. La peine est assortie d'un stage de citoyenneté, d'une obligation de soins et de 140 heures de travail d'intérêt général. Après avoir été reporté à plusieurs reprises, les propositions de loi sur la fin de vie seront examinées au Sénat à partir du 20 janvier. Le calendrier officiel a été arrêté. Il y a deux textes, pour rappel, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Les débats dureront pendant un peu plus d'une semaine avant un vote solennel le 28 janvier. La copie arrivera en février à l'Assemblée nationale. Une mission consacrée aux énergies renouvelables vient d'être lancée par le gouvernement Le Cornu avec une grande question: combien coûte-t-elle aux finances publiques? Le travail a été confié à Jean-Bernard Lévy, ancien PDG d'EDF, ainsi qu'au haut fonctionnaire Thierry Thuot, conseiller d'État. Des conclusions sont attendues dans 3 mois. Et puis, 4 premières médailles pour les Français au championnat d'Europe de natation en petit bassin en Pologne. Mewen Tomac en argent, Beryl Gastaldello, Pauline Mailleux et Maxime Grousset sont en bronze.
Minuit, 5h, c'est la nuit sur France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Mattey.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur France Info, à la radio et à la télé sur le canal 16 de la TNT. À la une ce soir, 7 ans de prison, la justice algérienne confirme en appel la peine du journaliste français Christophe Glaize, arrêté il y a un an et demi en Algérie. Pourra-t-il tout de même être libéré dans le contexte du réchauffement des relations entre Paris et Alger et quelques semaines seulement après la grâce de Boualem Sansal? À la une également, commerce et diplomatie, au cœur de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, le président français est arrivé à Pékin, il s'entretient dès demain avec son homologue Xi Jinping. Et puis à 8000 km de Pékin, Sébastien Lecornu à Paris bataille toujours pour un compromis sur le budget de la sécurité sociale. Le Premier ministre le redit, il n'y aura pas de 49.3. Pour en parler, Elisabeth Pinault. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Victor.
Grand reporter de l'agence Reuters, correspondante pour Matignon et l'Elysée. À vos côtés, François Reynard. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et chroniqueur au Nouvel Obs. Bonsoir Richard Verly.
Bonsoir Victor.
Correspondant français Europe pour le média suisse BIC. Et bonsoir Valérie Lyon.
Bonsoir.
Chef adjointe du service débat et idées du journal La Croix. Christophe Glaize reste donc en détention en Algérie, jugé en appel à Tizi Ouzou. Le journaliste sportif français de 36 ans a, comme en première instance, été condamné à 7 ans de prison. Elisabeth Pinault, comment interprétez-vous cette nouvelle condamnation en appel ?
Il y avait quand même de l'espoir, ses avocats l'avaient exprimé, mais le cas de Boualem Sansal n'est pas le cas de Christophe Claes, ce sont vraiment deux cas parfaitement distincts. Ça montre, côté Alger, qu'on ne rigole pas avec la liberté de la presse. Quelqu'un qui veut faire du journalisme avec un village touristique, ce qui était son cas, ça ne se passe pas comme ça. Moi-même, je suis allée en Algérie plusieurs fois pour mon travail, et tout le monde n'avait pas de visa au sein de la délégation. J'y suis allée avec des premiers ministres et des présidents. Le Monde n'en avait pas, par exemple. En Algérie, ça ne va pas de soi. Et le travail des journalistes est surveillé. Et s'il a voulu outrepasser les règlements, c'est un problème. Et puis ça montre aussi qu'Alger ne rigole pas non plus avec les mouvements indépendantistes kabyles. C'est à ce titre aussi qu'il a été...
On peut peut-être rappeler les circonstances. Oui, son arrestation, effectivement, en mai 2024, un article à la base sur le club de football le plus connu, le plus titré d'Algérie, la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie.
Oui, et il a voulu interroger un responsable du football, parce que c'est un journaliste sportif, Christophe Glaise, il est spécialiste du football africain, il est pigiste, je crois, et il a voulu interviewer un responsable de football, qui se trouve être aussi membre d'un mouvement indépendantiste kabyle, et ça, Alger, visiblement, n'a pas apprécié non plus, donc c'est une nouvelle décevante pour les défenseurs de Christophe Glaise.
Mouvement indépendantiste du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classée terroriste par les autorités algériennes en 2021, François Reinhardt.
Oui, je suis d'accord avec ce que disait Elisabeth, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que Christophe Glaise, là, c'est un choc pour nous tous. On était presque tous sûrs qu'il y aurait une espèce de transaction avec une mesure de sursis ou quelque chose comme ça. Et là, c'est évidemment un choc qu'il soit. Bien sûr, c'est vrai qu'il est allé en Algérie faire un reportage sans visa de journalisme, mais la plupart des gens vont en Algérie sans visa de journalisme parce qu'ils n'en donnent pas, ils n'en donnent jamais. C'est ce qui est scandaleux en soi, dans un pays qui est un pays qui devrait être respectueux des libertés. Eh bien, les journalistes peuvent faire leur travail. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la Kabylie, c'est quelque chose de très, très, c'est aussi irritant pour l'Algérie que le Sahara occidental, dans un autre genre. C'est-à-dire que en Kabylie, il y a un mouvement d'indépendantisme kabyle qui, depuis les années 80, est le premier mouvement qui s'est dressé contre le FLN. Donc, il y a une espèce d'horreur de ça. Mais encore une fois, lui, il n'est pas accusé. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il est en prison simplement parce qu'il
a interviewé du terrorisme.
Alors qu'il a simplement interviewé quelqu'un qui était dans ce club de foot, et il se trouve que ce quelqu'un était peut-être lié à ce mouvement-là. Mais enfin, c'est surréaliste. C'est comme, imaginez en France le nombre de fois vous avez croisé quelqu'un qui par ailleurs a fait peut-être tous les gens qui ont interviewé M. Sarkozy qui est repris de justice, ils n'ont pas été en prison pour apologie de je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est évidemment c'est un choc, c'est scandaleux, et ce qu'il faut espérer, c'est que maintenant, il y aura ce qui s'est passé pour Boualem Sansal, quelque chose qui aille vers une grâce, quoi. C'est la seule solution.
On peut espérer, effectivement, cette solution, Valérie Lyon, désormais.
Alors, on peut l'espérer, il y a un agenda, un calendrier par rapport à cette condamnation qu'il faut avoir en tête, c'est que le fameux mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un de ses représentants est donc en France, et a annoncé vouloir proclamer l'indépendance de la Kabylie le 14 décembre depuis Paris. Donc, on peut évidemment s'attendre à ce que d'ici le 14 décembre, il ne se passe pas forcément quelque chose, malheureusement, pour Christophe Glaise, mais que c'est là aussi un moyen de pression, peut-être, des autorités algériennes, pour que la France, réagisse ou ne. Voilà. En tout cas, il y a cette échéance-là qui peut, en tout cas, dans les 15 prochains jours, compliquer les choses. Après, on peut espérer, effectivement, qu'on est quand même revenu sur un terrain de négociation, comme on l'a vu pour Boualem Sansal, de discussion. Et donc, on peut espérer, on sait que. Notamment Monseigneur Vesco, l'archevêque d'Alger, a joué un rôle important dans la libération de l'écrivain. Voilà, on peut espérer que les contacts ne sont pas rompus de ce point de vue-là.
On se souvient que l'arrestation de Christophe Glaise en mai 2024 était intervenue à un moment de très forte tension entre la France et l'Algérie. Son éventuelle libération à l'avenir ne se ferait pas sans contrepartie. Je vous propose d'écouter Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Il était tout à l'heure l'invité de France Info.
Il y a toujours le paiement d'une rançon. Alors pas forcément une rançon monétaire, mais une rançon politique avec l'Algérie, sur l'accord de 68, sur les visas. En plus, Alger nous reproche d'avoir interné, d'avoir mis sous mandat d'arrêt un diplomate algérien qui a voulu enlever un influenceur algérien, Amir Dezed. Donc ils vont réclamer sa libération.
Cela rejoint, Richard Verlis, ce que l'on disait tout à l'heure, le sort de Christophe Glaize, on le rappelle, condamné aujourd'hui en appel à 7 ans de prison, dépasse en quelque sorte son propre cas.
Oui, mais c'est un otage judiciaire, tout simplement. C'est une personne, il est aux mains d'une justice qui est une justice éminemment politique et dans ce cas de figure, une justice que le gouvernement algérien utilise pour négocier avec la France comme
ses
ça vient d'être dit.
Les avocats ont réfuté ce terme d'otage. Mais... stratégie peut-être
ils peuvent
de défense.
Ils peuvent le réfuter, mais la réalité que l'on voit, c'est ça. Et moi, ce qui me préoccupe vraiment, c'est que je vois le message à l'intention des journalistes, c'est-à-dire à l'intention de nous tous ceux qui ont l'intention d'aller en Algérie, éventuellement, c'est-à-dire ne le faites pas, n'y allez pas, ou de toute manière, si vous y allez, faites attention à ce que vous écrivez, même à qui vous allez rencontrer. Donc c'est ça, je dirais que d'un côté, ne l'oublions pas, dans l'affaire Boualem Sansal, il y avait bien sûr la personnalité de l'écrivain et ce qui s'était passé autour de lui, mais il y avait aussi le message adressé à la communauté algérienne de France et aux intellectuels algériens de France, hors de question de s'exprimer, d'ailleurs, peu d'entre eux, quand même, il faut bien le reconnaître, se sont exprimés. Je parle des intellectuels algériens de France. Eh bien, aujourd'hui, on voit ça à destination des journalistes. Ça s'appelle la loi du silence implacable et qui va continuer. Alors, est-ce qu'il y a des contacts diplomatiques? Je pense qu'au moment où on parle, il y en a. Est-ce que, par contre, sa libération sera rapide et sa grâce rapide? On peut quand même en douter parce que le régime algérien a besoin d'un délai pour, je dirais, que la justice algérienne ne perde pas la face.
Communiqué ce soir du Quai d'Orsay, la France regrette vivement la confirmation de cette condamnation et appelle à sa libération. Elisabeth Pinault, on imagine effectivement que les canaux diplomatiques existent pour essayer de faire avancer et d'arriver à cette libération ou une grâce présidentielle.
On revient aux questions qui s'étaient posées pour Boualem Sansal. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut employer une méthode dure? C'était la ligne Retailleau à l'époque quand il était ministre de l'Intérieur. Ou est-ce qu'il faut utiliser les canaux plus soft, par le silence, en ne racontant pas ce qui se passe en coulisses? Pour Boualem Sansal, c'est l'Allemagne qui est intervenue, qui a joué les intermédiaires pour, via le président Tebboune et les liens avec le président allemand, enfin pour essayer de faire passer la pilule et que les choses ne soient pas directement entre Paris et Alger, parce que ça reste toujours une relation particulière, toujours tendue, avec, vous l'avez dit, je vous donne ça à condition que, enfin il y a toujours des deals diplomatico politique entre les deux capitales, et Christophe Glaize va être une monnaie d'échange d'une manière ou d'une autre. Alors, vous l'avez expliqué, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours, si quelque chose se passe avec le mouvement de Kabylie, et puis le Quai d'Orsay travaille, incontestablement.
François Reynard.
Oui, sur les méthodes, il y a toujours le côté, est-ce qu'il faut beaucoup en parler ou pas beaucoup en parler. Je sais que pour Boualem Sansal, lui-même, en revenant dans ses interviews, il a dit... Le fait que Retailleau ait eu une politique un peu dure, mon ami Retailleau, il a dit, c'est quelque chose qui a retardé ma libération. Il a dit ça, donc il allait plutôt dans le sens de, il valait mieux être sur une diplomatie molle, etc. Sur Christophe Glaize, il y a autre chose aussi, c'est, est-ce qu'il fallait en parler ou pas? Pendant longtemps, on n'en a pas parlé. C'est souvent un choix quand des gens sont pris, comme disait Richard, en otage judiciaire. C'est un choix qui est pris, mais maintenant que l'affaire est publique, il faut continuer à en parler parce que ça peut servir à quelque chose. C'est aider son moral à lui. C'est-à-dire que savoir qu'on est en train de parler de lui, j'imagine, ça lui fait plaisir. Et moi, je remarque une chose, c'est que on n'a pas, enfin, je suis pas spécialiste de la question, mais on n'a pas beaucoup entendu les grands ténors du foot. Enfin, il y en a beaucoup qui ne sont pas tellement exprimés. Et ça, il me semble, puisque c'est un journaliste sportif qui travaillait pour SoFoot et qui faisait, ce serait bien que les grands footballeurs, parce que ça, c'est quelque chose qui parlerait au peuple algérien. C'est évident, le foot, c'est un langage international et en particulier qui est très important en Afrique du Nord. Et donc, ce serait bien que des grands footballeurs disent, voilà, aidez-nous, défendons ce journaliste emprisonné de manière injuste. C'est évident.
On a évoqué Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur. Son successeur, l'actuel ministre Laurent Nunez, est en place. Grand connaisseur aussi du dossier algérien, Valéry Lyon. Cette arrivée, Place Beauvau, elle peut changer les choses dans la relation franco-algérienne et peut-être dans l'espoir d'une libération de Christophe Glaize?
Alors, elle peut changer les choses, mais incontestablement, il en faudra beaucoup plus pour changer les choses dans la relation franco-algérienne. Comme le rappelait Benjamin Stora, qui est quand même un des meilleurs historiens du sujet et qui, notamment, le rappelait dans une tribune dans La Croix, mais il s'est exprimé aussi sur votre antenne. Il suffira pas d'un geste, d'une poignée de main pour effacer 132 ans d'une relation extrêmement complexe. Et le travail notamment de mémoire qui permet à un moment de repartir sur des bases, il a été fait sur la guerre d'Algérie. Il reste à faire sur ce qu'il appelle la guerre de conquête, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore revenu aux sources de cette histoire extrêmement complexe, c'est-à-dire la conquête de ces terres par la France au XIXe siècle, qui reste relativement absente, et des manuels d'histoire, de l'enseignement et des échanges, en fait. Donc, il en faudra beaucoup plus, mais l'arrivée de Laurent Nunez a été quand même, on l'a vu, un point positif.
Laurent Nunez, Richard Verdi, qui pourrait se rendre en Algérie dans les prochaines semaines, c'est ce qu'il avait annoncé au moment de la grâce et de la libération de Boualem Sansal. Est-ce que la condamnation en appel aujourd'hui de Christophe Glaize compromet ce futur voyage?
C'est difficile à dire, parce que j'imagine que s'il y va, ça fera partie, bien sûr, des sujets qui seront évoqués. Et donc, il y aura probablement un scénario très écrit. Est-ce qu'il peut y aller tant que le journaliste est encore en prison? J'ai quand même des doutes. Donc, il faudrait qu'il y aille avec un résultat à la clé. C'est vrai qu'il a le très bon profil, d'abord dans sa manière d'être, et aussi parce qu'il est d'origine, je crois, d'Oran. Sa famille était pied-noir. Donc, ça peut jouer. Mais y aller et revenir sans le journaliste qui est actuellement emprisonné, là, pour le coup, ce serait une défaite politique sérieuse.
Comment on regarde tout cela depuis la Suisse, Richard?
Vous savez, on a des relations très différentes que la France avec l'Algérie, pour des raisons que vous imaginez, aussi parce que la Suisse a été, pendant les négociations d'Évian, l'endroit où les indépendantistes algériens trouvaient refuge, l'endroit où se trouvait l'argent du FLN, l'argent c'est toujours important, donc on est plutôt, je dirais, sur une position un peu comme l'Allemagne vis-à-vis de l'Algérie, mais moi, pour avoir parlé avec des diplomatistes, on n'a aucune illusion sur ce qu'est le pouvoir algérien, à une différence près, c'est que j'ai beaucoup entendu dire côté suisse et peu côté français, combien ce pouvoir est au fond plus compliqué qu'on ne veut bien le croire. C'est pas un bloc monolithique. Il y a différents éléments de pouvoir, ça je l'ai beaucoup entendu, en Algérie, qui s'affrontent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a au milieu de tout ce qu'on dit, de la liberté qui existe en Algérie, et c'est en ça qu'il est difficile à comprendre. Mais ce qui est certain dans ce cas de figure, c'est que la justice algérienne est instrumentalisée par le pouvoir politique.
Et on rappelle ce soir la condamnation de Christophe Glaize, 7 ans de prison confirmée en appel, mais malgré tout l'espoir peut-être d'une grâce à l'avenir pour le journaliste français avec Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui pourrait lui se rendre prochainement en Algérie. Emmanuel Macron, lui, est en Chine, un voyage officiel de 2 jours, c'est le 4e depuis 2018. Il est arrivé aujourd'hui, le président français, qui sera reçu demain à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping. Nous a rejoint François Bougon, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Mediapart, spécialiste de la Chine, auteur de ce livre Dans la tête de Xi Jinping, sorti chez Actes Sud en 2023. De grandes priorités dans ce voyage pour Emmanuel Macron, la diplomatie et l'économie. Sur l'économie, 35 patrons de grands groupes, Airbus, EDF, Danone, accompagnent le président. Enjeu énorme pour les entreprises françaises dans ce voyage.
Oui, alors moi je dirais que, alors il y a peut-être un enjeu énorme pour les entreprises françaises, mais c'est surtout un enjeu énorme au-delà pour toute l'Europe. Mm-hmm. C'est toute la question de comment l'Europe peut se sortir d'une sorte de piège dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire qu'elle est un peu l'otage du conflit commercial, de la guerre lancée par Trump contre la Chine. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des productions, des importations massives de produits chinois. Et donc, l'Europe aujourd'hui semble un peu, d'une certaine manière, démunie et en train de chercher une réponse face à cela. Et on peut dire que la visite d'Emmanuel Macron est la première d'une série de visites de dirigeants occidentaux. Donc vous allez avoir Emmanuel Macron. Et puis en début 2026, vous aurez Keir Starmer, le ministre. Alors il est plus dans l'Union européenne, mais il partage les mêmes inquiétudes en fait. Et puis après, Friedrich Merz, le chancelier allemand, est suivi de Donald Trump en avril.
Ce qui fait aujourd'hui que Ursula von der Leyen, par exemple, la présidente de la Commission européenne, n'est pas là alors qu'elle était aux côtés du président français en 2023. Comment on explique cette absence?
En fait, l'Élysée ne l'a pas vraiment expliqué en disant qu'il s'agissait avant tout d'une visite bilatérale et qu'il n'était pas, que de toute façon Emmanuel Macron allait expliquer la situation à Xi Jinping et après allait en rendre compte à Ursula von der Leyen. Donc je ne pense pas qu'il faille voir une explication plus avant.
Sur cette offensive des plateformes chinoises, ils vont sans doute parler de Chine. François Reinhart, avec le récent épisode du BHV, on imagine que ça a pu froisser le président chinois.
Et en tout cas, ça froisse les Français aussi, parce que c'est quand même scandaleux ce qui se passe. Hein. Vous savez, la Chine, tous les Chinois aujourd'hui, ils ont dans la tête l'idée qu'il faut se relever de l'humiliation que l'Occident leur a fait subir. Hein. Ils appellent ça le siècle de l'humiliation. Au 19e siècle, les Anglais ont commencé à attaquer la Chine pour asservir la Chine commercialement et lui envoyer de l'opium. Et ce qu'on appelle les guerres de l'opium, c'est ça. Tous les Chinois ont appris ça à l'école. Les guerres de l'opium, c'est l'horreur. C'est les Anglais qui nous ont jetés à terre, etc. Et bien mal, j'ai l'impression que Chine, c'est la guerre de l'opium chinoise. Ils nous envoient leur poison, ils nous envoient leur drogue pour essayer de tuer nos industries. Donc, il faut qu'on se protège contre ça. Et l'autre chose, j'entendais ce que disait François Bougon très justement sur en parlant de l'Europe. Là, l'Europe, elle est dans une position très difficile parce qu'elle est malheureusement faible. On est coincé entre un qui nous veut du mal, qui s'appelle Trump, et un autre qui nous veut du mal, qui s'appelle Xi Jinping. On est au milieu de ça et on n'arrive pas à se défendre. Il faut bien savoir que ce serait pire si on était la France seule. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens en France qui pensent que la France peut se débrouiller toute seule. La Chine est rentrée dans l'OMC en 2001. À ce moment-là, l'économie chinoise, c'était l'équivalent de l'économie française. Aujourd'hui, l'économie chinoise, elle est 6 fois plus forte que l'économie française. L'Europe, elle est à peu près, elle a le même PIB que la Chine. L'Europe entière. Donc, ce qu'il faut absolument penser aujourd'hui en Europe sur tous ces sujets-là, c'est de renforcer l'Europe, de réussir à faire une puissance commerciale, militaire, pour se battre. Ça, c'est notre autre problème qui est la Russie. Donc, il faut absolument renforcer l'Europe. Toute l'actualité nous le dit tous les jours, me semble-t-il.
Bon, Valérie Lyon, il y a aussi des problèmes, on va dire, plus structurels. La Chine, par exemple, a besoin de produire toujours plus, finalement, pour exporter.
Ce qui est très frappant, c'est qu'on a vraiment changé d'air, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où les entreprises françaises partaient à la conquête du marché chinois et ce type de visite se concluait par des signatures grandioses de contrats avec des milliards. Et maintenant, c'est le marché français et européen qui est sous le déferlement des produits chinois. Et Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, a résumé ça très bien, en disant il y a une inversion, nous sommes devenus le pays émergent, ils sont devenus le pays développé. Et c'est vraiment ça, et sur ce que disait François sur la question des innovations technologiques, en fait, ils ont profité de tout ce qu'on a apporté à travers des joint ventures, etc., qu'ils ont imposé à nos industries pour développer des nouvelles technologies. Aujourd'hui, ils sont très forts en innovation sur des sujets de haute technologie, et l'enjeu aujourd'hui, c'est de leur imposer des joint ventures avec nos entreprises ici en Europe et effectivement de faire des investissements. Donc il y a vraiment une inversion totale du rapport. Il faut rappeler quand même qu'en 10 ans, le déficit commercial avec la Chine de la France a doublé.
Pour atteindre 47 milliards d'euros l'an dernier, Elisabeth Pineau, justement, c'est l'un des objectifs pour Emmanuel Macron d'essayer de réduire ce déficit commercial. Là aussi, on se dit que c'est un peu mission impossible.
En tout cas, il va essayer de faire valoir ses arguments. Lui connaît bien Xi Jinping, parce qu'ils sont là tous les deux depuis longtemps. Ils sont parmi les rares dirigeants dans le monde à avoir connu Trump 1, le premier, et qui connaissent également Vladimir Poutine depuis longtemps, par exemple. Et l'Élysée a fait valoir que la visite qu'ils vont faire dans le centre, dans le Sichuan, dans le centre de la Chine vendredi, c'est absolument exceptionnel. Rappelons que Emmanuel Macron avait emmené le président chinois dans les Pyrénées. Alors ça peut paraître symbolique.
Un jour de brouillard, on s'en souvient.
Un jour de brouillard et de pluie, mais ça n'a pas empêché les moutons et les bergers de danser, si je me souviens bien. Et il a goûté à tout, y compris au cognac, qui était à l'époque un problème, hein, parce qu'il y a eu des mesures de rétorsion de la part des Chinois contre le cognac, pour en réponse au soutien de la France à des mesures européennes contre la voiture électrique. Donc c'est pour punir l'Europe, il avait puni la France via le cognac. Donc c'était quand même assez symbolique. En tout cas, il y a quand même une relation personnelle entre ces deux hommes et Emmanuel Macron compte là-dessus quand même pour essayer de faire valoir ses arguments sur tous les dossiers commerciaux, bien entendu, également sur les dossiers diplomatiques, y compris l'Ukraine. On sait les liens qu'il y a entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, et l'Élysée dit il ne suffit pas d'être juste neutre, hein. La Chine a tendance à dire c'est pas nos affaires, mais Emmanuel Macron aime le convaincre de faire plus en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, de faire davantage. Donc essayer de peser sur tous les dossiers via cette relation personnelle entre les deux dirigeants.
François Bougon, vous avez écrit ce livre dans la tête de Xi Jinping. Comment on parle justement avec Xi Jinping? Elisabeth Pineau évoquait Vladimir Poutine, Donald Trump, c'est très différent de ces dirigeants-là.
Oui, je pense que c'est... je serais un petit peu plus dubitatif sur la capacité, en tout cas l'illusion qu'Emmanuel Macron a de vouloir développer une relation personnelle avec Xi Jinping. Je pense que ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement, avec lui. C'est un bureaucrate, enfin un bureaucrate, oui, il a fait toute sa carrière au sein du Parti communiste. Les relations personnelles, par exemple, que Emmanuel Macron peut développer avec Donald Trump, ce ne sont pas du tout les mêmes que celles que Emmanuel Macron peut développer avec Xi Jinping. Et ce n'est pas parce que Emmanuel Macron va faire preuve d'amitié, va l'emmener dans les Pyrénées, ou que Xi Jinping va l'emmener au Sichuan, que les dossiers vont se régler comme ça par la magie. Ça va être toujours aussi compliqué. Je pense que ça va être un voyage qui va être de toute façon assez décevant.
Dans la communication aussi, il y a des précautions oratoires à prendre quand
oui,
on parle
après,
avec Xi Jinping.
Moi, je crois que ça s'inscrit quand même dans une sorte de mythe, un peu c'est des mythes gaullistes que l'on aime bien en France. C'est-à-dire que ce mythe qui consiste à dire que la Chine et la France ont une relation particulière depuis la reconnaissance par le général de Gaulle de la Chine en 1964. Les Chinois jouent dessus, les Français adorent jouer là-dessus, mais en même temps, les problèmes restent et on rentre, c'est ce que je disais, on rentre quand même dans une séquence très compliquée, à la fois sur le plan économique et puis aussi sur l'Ukraine. Et en fait, ça, c'est quand même un dossier qui contribue à la dégradation des relations entre la France, en tout cas l'Union européenne, la France et la Chine, c'est l'Ukraine.
Richard Verli, on a évoqué la relation déséquilibrée commerciale entre la France et la Chine. Est-ce que la Chine, aujourd'hui, a besoin de la France ?
Est-ce que la Chine a besoin de l'Europe ? C'est ça la question. C'est pas est-ce que la Chine a besoin de la France ? Elle a besoin du marché européen. Et c'est finalement notre seule arme. C'est qu'elle a besoin de ce marché européen. D'abord, pour contrebalancer ce qu'elle risque de perdre sur le marché américain. On verra ce que vont donner les tarifs douaniers, mais aussi parce que c'est un marché solvable. Vendre des produits en Afrique, ça n'est pas toujours aussi solvable qu'en Europe. Donc elle en a besoin. Moi, ce qui me frappe dans cette... D'abord, moi je pense comme nous tous, il faut parler à la Chine. C'est indispensable. De la même manière qu'il faut parler aux États-Unis. Avec la Russie, c'est très compliqué, mais on voit bien que quand même on parle malgré tout avec Vladimir Poutine. En tout cas, Donald Trump, lui, le fait. Mais on parle de quoi ? C'est ça la vraie question. On parle de quoi et sur quel dossier Emmanuel Macron, dans le cadre d'une visite qu'il a qualifiée de bilatérale, pèse ? Quel est le poids d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Les Chinois qui voient le temps long, ils savent très bien que dans un an et demi, il ne sera plus président. Ils savent très bien la situation politique française. Or, est-ce que vous pouvez espérer quoi que ce soit de Xi Jinping si vous ne pesez rien ou pas grand-chose dans la balance du pouvoir mondial ?
François Reynard.
Je pense que la longue stratégie chinoise, enfin je parle sous le contrôle de François Bougon, c'est de revenir à la première puissance mondiale qu'elle a été pendant 20 siècles, la Chine. Ça a été la première puissance mondiale pendant la plupart de l'histoire de l'humanité. Et elles veulent redevenir, et pour le redevenir, il n'y a pas cette idée morale comme en Occident qu'on doit faire que des choses, qu'une guerre c'est bien, c'est mal, etc. Pour la guerre d'Ukraine, par exemple, les Chinois, ils ne vont pas s'y investir, ils ne vont pas envoyer des soldats en Ukraine, je ne pense pas. Leurs alliés coréens du Nord, ils ont des soldats en Ukraine, mais eux, ils ne vont pas y aller, parce que ce qui les intéresse, c'est que les autres se fassent la guerre, parce que ça les affaiblit, et qu'après, ils pourront régner. C'est un truc aussi cynique que ça. Et ce qu'il y a, la seule guerre qui les intéresse, c'est Taïwan, hein, pour des raisons de réunifier la Chine. Donc, tout ce qui va dans le sens de un jour on pourra reprendre Taïwan et on va pas nous faire la guerre, ça les intéresse. Les autres guerres, vous voyez, sur le Moyen-Orient, ils s'y investissent très peu. Pourtant, ils sont présents, ils achètent du pétrole à l'Iran, etc. Et parce que c'est la stratégie chinoise, c'est une stratégie, on est l'empire du milieu, le pays du centre, on va récupérer notre position centrale et puis voilà, les autres sont des vassaux.
Valérie Lyon.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Richard, parce qu'effectivement, la Chine a besoin de la France et de l'Europe aussi, parce que la consommation en Chine recule, en fait, elle n'est plus aussi élevée, et qu'il y a des surcapacités de production. Et la Chine est quand même une population vieillissante aussi, donc ça, c'est un élément de faiblesse pour l'avenir de la Chine, dans sa capacité, justement, à retrouver cette splendeur-là. Donc, effectivement, le marché européen, il est crucial.
France Info, la nuit. L'info revient dans un instant.
Thank you.
Proust.
Il est 1h30, le flash Anne-Sophie Balbir. Emmanuel Macron poursuit son déplacement en Chine. Le chef de l'État va s'entretenir ce jeudi avec son homologue Xi Jinping. Au menu, le rôle que Pékin peut jouer auprès de Moscou dans le conflit ukrainien, mais aussi les déséquilibres commerciaux entre la Chine et l'Europe. Des accords doivent être signés. Donald Trump affirme que Vladimir Poutine donne l'impression de vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Déclaration du président des États-Unis après la rencontre de mardi à Moscou. Ce jeudi, nouvelle étape dans les pourparlers, l'émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, vont discuter avec le négociateur ukrainien Roustem Umrov en Floride. Et puis, conséquence de la montée des tensions avec Moscou provoquée par la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni et la Norvège doivent signer un nouvel accord de coopération dans la défense. Les deux pays prévoient d'opérer ensemble une flotte de pour traquer les sous-marins russes en Atlantique Nord, selon le ministère britannique de la Défense. La situation reste extrêmement fragile dans la bande de Gaza, selon un hôpital de Khan Younes dans le sud du territoire. 5 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été tués lors d'un raid israélien. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, accuse le Hamas de continuer de violer le cessez-le-feu et de mener des actes terroristes. Plus de 2 ans après la mort de Matthew Perry, acteur de la série Friends, décédé d'une overdose. Le médecin qui a nourri son addiction à la kétamine vient d'être condamné à 2 ans et demi de prison. Il a reconnu avoir vendu au comédien une 20aine de flacons de cet anesthésiant dans les semaines précédant le drame. Il est resté digne, il va se battre. Les mots de l'un des avocats de Christophe Glaize sur France Info. La justice algérienne a confirmé en appel la condamnation du journaliste sportif français à 7 ans de prison. Le ministère français des Affaires étrangères dit regretter ce verdict. Christophe Glaize a maintenant 8 jours pour décider ou non s'il se pourvoit en cassation. C'est une information de nos confrères d'ici Orléans. Un surveillant de lycée a été surpris par des élèves en train de regarder une vidéo pornographique pendant ses heures de travail. Ça s'est passé fin novembre dans l'école privée catholique Sainte-Croix-Sainte-Verte d'Orléans. Il a été mis à pied. Une enquête est ouverte. Dans le cadre de l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale, les députés viennent de repousser la mesure qui devait généraliser l'affichage du Nutri-Score sur les emballages alimentaires. L'Assemblée avait pourtant voté pour début novembre. Le gouvernement, lui, estime que le principe est inadapté et contraire aux normes européennes. Et puis sur le budget de l'État pour 2026, les sénateurs se sont prononcés pour réduire l'effort demandé par le gouvernement aux collectivités locales, limité à 2 milliards au lieu de 4,6 milliards.
Minuit 5h, c'est la nuit sur France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet.
Avec ce soir Elisabeth Pinault de l'agence Reuters, correspondante pour Matignon, et l'Élysée. François Reynard, journaliste, chroniqueur au Nouvel Obs. Richard Verly, correspondant France et Europe pour le média suisse Blick. Valérie Lyon, chef adjointe du service débat et idées du journal La Croix. Et François Bougon, toujours avec nous, journaliste à Mediapart, spécialiste de la Chine et auteur du livre Dans la tête de Xi Jinping, le voyage officiel d'Emmanuel Macron en Chine, le volet diplomatique. Emmanuel Macron qui veut parler, on l'a dit, de l'Ukraine avec Xi Jinping. Quel est le rôle de la Chine aujourd'hui dans ce conflit, François Bougon ?
Alors, dans le conflit lui-même, ce n'est pas un acteur direct. Par contre, ce que lui reprochent les Européens, c'est de soutenir la Russie, en fait.
Notamment militairement ?
Militairement, alors... via, par exemple, des relations économiques poussées, des investissements dans un certain nombre de secteurs qui sont liés au secteur militaire. Et puis surtout, ce que reprochent les Européens à la Chine, c'est de ne pas faire pression sur... Alors, c'est ce qu'ils essayent de penser, que la Chine pourrait faire pression sur Vladimir Poutine pour au moins accepter une certaine condition dans le cessez-le-feu. Voilà, on se retrouve dans une situation qui est un peu comparable à ce qui se passait avec la Corée du Nord à une certaine époque où les États-Unis pensaient que la Chine, que Pékin pouvait faire pression sur la Corée du Nord pour que la Corée du Nord accepte de négocier sur le programme nucléaire. Et on se retrouve dans la même impasse.
Elisabeth Pinault, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, peut faire pression d'une façon ou d'une autre sur Xi Jinping pour qu'il parle à Vladimir Poutine ?
Pression, c'est un grand mot. En tout cas, il va essayer de le convaincre du bien fondé de la position ukrainienne et européenne, qu'on ne peut pas laisser les Européens de côté à l'heure où les négociations se font directement entre Moscou et Washington. Il va essayer, en tout cas, de lui en parler avec, comme je disais tout à l'heure, la volonté que la Chine soit moins neutre qu'elle ne l'est aujourd'hui, en tout cas en façade sur ce dossier, avec aussi en ligne de mire le G7 d'Évian. Hein, c'est aussi pour préparer ce rendez-vous que Emmanuel Macron va en Chine. La Chine pourrait être représentée, elle ne sera peut-être pas invitée au plus haut niveau, mais en tout cas elle pourrait être représentée à ce rendez-vous. La Chine qui, de son côté, va diriger, va présider l'année prochaine le Forum Asie-Pacifique.
François Reinhardt, la Chine défend les intérêts de la Russie ou finalement elle ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts?
Je suis absolument persuadé que la Chine ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts, et parce que voilà, c'est, en même temps c'est le propre de n'importe quel pays au monde, hein, mais il faut surtout avoir le sens du rapport de force, comme le rappelait tout le monde sur le plateau. Tout à l'heure, François Bougon parlait du syndrome du général de Gaulle. Enfin, le général de Gaulle, c'est un grand homme, admirable, etc., mais il a un gros défaut, c'est qu'il nous a fait croire que la France était au centre du monde et qu'on parlait à tout le monde et que tout le monde nous écoutait. Alors déjà, en 64, c'était pas tout à fait vrai, et en 2025, c'est tout à fait faux. En 2025, nous, on est un pays, pour la Chine, on est un petit pays de 70 millions d'habitants. Eux, ils sont un pays, c'est 1,4 milliard ou 1,3 milliard, je sais plus, enfin voilà, en tout cas beaucoup plus, avec une économie qui est beaucoup plus puissante. Enfin, c'est le rapport, un Chinois qui regarde la France, c'est comme un Américain qui regarde le Portugal, sans disrespect pour le Portugal, que j'aime beaucoup. Donc ce que je pense, je dis ça non pas contre la France, parce que je pense qu'on est fort quand on sait quel poids on a. Hein. On est faible quand on se trompe sur sa poisson. Ça, c'est vrai dans la vie et c'est vrai dans la géopolitique. Et donc, je pense que j'ai confiance en lui quand il va en Chine, parce qu'il est un Européen et qu'il essaie de parler au nom de tous les Européens. Ça, Europe, ça a un sens pour un Chinois, parce que c'est, comme le disait Valérie Lyon, c'est un énorme marché. Hein, c'est combien, 450 millions de consommateurs, c'est ça. Donc ça, c'est un énorme marché et un poids économique, commercial, etc., etc. Donc ça, ça a un sens. Mais croire qu'il y a un dialogue entre la France seule et la Chine, non, ça ne faut pas rêver.
Richard Verly.
Oui, je serais un peu plus nuancé. Je pense que pour les Chinois, la France reste importante. C'est une grande diplomatie, c'est un membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une puissance nucléaire, c'est une puissance du Pacifique à travers la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Ce sont quand même des éléments qui comptent. La grande difficulté, c'est que Emmanuel Macron, il y a le poids que j'évoquais, le poids politique tout simplement d'Emmanuel Macron, mais il y a aussi le calendrier. Parfois, il faut agir au bon moment. Prenons un exemple. Quand on a laissé, pendant la crise financière, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dénoncé, quand on a laissé les Chinois s'emparer du port du Pirée, si on ne l'avait pas fait à ce moment-là, si on avait réagi, on aurait eu un acte concret qui aurait vraiment handicapé la présence économique chinoise. On a laissé faire. Maintenant, c'est trop tard. Par ailleurs, et je parle sous le contrôle de François qui connaît bien la Chine, est-ce qu'on est vraiment sûr de tout ce qu'il y a dans les containers et que ce qu'il y a est exactement conforme à ce qui est déclaré sur les documents? Parce que quand même, disons-le, il y a avec la Chine une part souterraine dans beaucoup de domaines qu'on ne peut pas non plus complètement évacuer. Il y a eu du pillage technologique en masse, c'est pas seulement des joint ventures, c'est aussi du pillage organisé, et maintenant c'est une puissance qui quelquefois utilise quand même des relais, on va dire, problématiques pour assurer sa puissance. Donc on est face à ces puissances qui nous considèrent, mais il faudrait qu'on puisse identifier, et je ne sais, j'espère que la Commission européenne le fait, honnêtement, j'en suis pas sûr, qu'on puisse identifier les points de faiblesse de la Chine et qu'on puisse appuyer dessus au bon moment. Malheureusement, les intérêts des pays européens sont contradictoires.
François, rapidement. Juste d'un mot, au moins la Commission européenne a réagi sur un terrain, c'est l'histoire des terres rares. Hein. C'est-à-dire que les terres rares, c'est le pétrole de demain. On a besoin de ça pour toutes les nouvelles technologies, etc. Et là, la Commission européenne a mis en place le fait qu'on devra s'abstraire de les prendre uniquement en Chine, d'empêcher que ce soit là, et d'aller dans tous les autres pays où c'est possible de les rafler. Donc ça, c'est décidé, c'est acté. Et voilà, et il y en a, je pense qu'il y en a, il doit y avoir en Europe aussi, partout où il peut y avoir ces minéraux critiques, là, ces choses qu'on les prenne, et ça, c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, c'est une chose européenne.
Sujet et thème qui font partie justement de ce voyage officiel d'Emmanuel Macron aujourd'hui et demain à Pékin, et puis vendredi à Chengdu, dans la région du Sichuan. Merci François Bougon d'avoir été avec nous ce soir dans Les Informés, journaliste à Mediapart, spécialiste de la Chine. Votre livre, Dans la tête tête de Xi Jinping, paru chez Actes Sud en 2023. Très loin de Pékin et d'Emmanuel Macron, toujours beaucoup de tensions ce soir à l'Assemblée autour du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026. Pas de plan B, il doit être adopté, reste à savoir sous quelle forme. Les députés ne sont pas d'accord entre eux, à moins d'une semaine maintenant du vote, ce sera mardi prochain. En attendant, le Premier ministre reste ferme, pas question pour Sébastien Lecornu de recourir au 49.3, l'article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer un texte de loi sans vote.
Je le redis, il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution et d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Ça veut donc dire que vous avez la responsabilité finale de cette copie, tant pour les objets positifs que vous défendez, ce qui est bien naturel. Donc le gouvernement est toujours à la disposition de l'ensemble des groupes pour arriver à trouver un compromis. Ça veut dire qu'il faut en avoir envie. Ça veut dire aussi qu'il faut s'en donner les moyens sur le terrain technique.
Sébastien Lecornu, le Premier ministre, cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée, qui parle aussi d'un budget de transition pour 2027. Elisabeth Pinault, le Premier ministre, il tient le cap malgré les appels de la droite répétés à revenir au 49-3.
En tout cas, c'est une ligne qui est la même depuis le début. Depuis que le Parti Socialiste a fait renoncer Sébastien Lecornu au 49-3, le gouvernement, ils disent, puisque le Parlement veut délibérer...
Il avait acheté en quelque sorte la non-censure du Parti Socialiste de cette façon.
Exactement, au départ. Maintenant, chiche, vous allez bâtir un budget, ce n'est pas facile. Eh bien, vous l'avez voulu, faites-le. C'est vraiment la ligne qu'on a toujours entendue depuis le départ à Matignon et à l'Élysée sur ce point. Même si jusqu'aux socialistes commencent à dire, s'il y avait un 49-3, ça nous éviterait d'avoir à voter pour un budget qui ne nous convient pas tout à fait. En tout cas, là, le compte à rebours est plus que jamais lancé. Hein, pour la sécurité sociale, le vote est prévu mardi prochain, dans l'après-midi. Et là, ça va être extrêmement juste, extrêmement serré, dans un sens comme dans un autre, avec des conséquences énormes, financières, politiques, et puis ensuite, Noël, hein, pour le budget dans son ensemble.
Peut-être rappeler
Noël, enfin le 31 décembre.
En un mot, exactement. Elisabeth, que ce n'est pas les mêmes règles pour le budget de la Sécurité sociale et le budget général de l'État. Il ne peut pas y avoir de loi spéciale pour celui de la Sécurité sociale.
Exactement.
Il faut trouver
Il faut trouver un accord. Ça repart et ça revient. Voilà, s'il n'y a pas de vote, ça repart au Sénat et ça revient. Ce n'est pas comme le budget où il y a une deuxième lecture et puis ensuite l'Assemblée nationale a le dernier mot. Et puis ensuite, on peut faire une loi spéciale ou des ordonnances. Pour la sécurité sociale, c'est différent.
Oui. Valérie Lyon, Bruno Retailleau, le patron du parti Les Républicains, lui appelle Sébastien Lecornu à revenir à ce fameux 49-3. Son argument, c'est de dire jamais les socialistes n'oseront voter la censure, donc on peut y aller finalement sans risque.
Non, mais je pense que, on est très loin du vrai fond du sujet quand même. C'est-à-dire qu'on a un PLFSS avec une suspension de la réforme des retraites qui est annoncée et que le vrai sujet aujourd'hui.
Voté par les députés, retoqué par les sénateurs, qui revient à l'Assemblée.
Qui revient. Il faut quand même rappeler que à l'Assemblée nationale, donc en première lecture, le volet recettes du PLFSS a été voté à une courte majorité, mais il a été voté. Donc il y a un compromis qui a été trouvé au moins sur le volet recettes. Donc ça veut dire que les compromis, ils sont toujours douloureux, ils sont jamais impossibles, en fait. Mais surtout, en fait, je trouve qu'on regarde pas au bon endroit, enfin 49-3 ou pas 49-3. Enfin, le sujet aujourd'hui, alors qu'on vient de fêter les 80 ans de la sécurité sociale quand même, c'est l'avenir de notre système de protection sociale. Et on voit, il y a deux rapports qui sont sortis cette semaine, un de l'OCDE et un de la Cour des comptes qui ont alerté sur le vieillissement démographique du pays et sur ses conséquences sur les finances publiques. Et donc, l'enjeu, il est là, en fait. C'est qu'est-ce qu'on va arriver à faire? Et si le budget n'est pas voté, en fait, si le budget est rejeté, on repart avec le même budget que l'an dernier, en fait, sur la sécurité sociale. Hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, le sujet, c'est comment on réforme ce système-là, en fait, de protection sociale, aujourd'hui.
Le sujet est là, François Reynard, pour vous aussi?
Alors, moi, je trouve qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est quelqu'un qui tire plutôt son épingle du jeu, qui est Lecornu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où il venait, on ne le connaissait pas très bien, etc. Et là, c'est le petit soldat qui arrive à batailler, qui est seul,
le moins de soldats.
Et donc, je pense que lui, en tout cas, on se dit qu'en termes d'image, un homme politique est né. Hein, voilà, il y a cette chose-là. Après, je ne sais pas ce qui fera de ça, mais en tout cas, cette chose est vraie. Mais l'autre chose qui est très déprimante, c'est ce que tout ce spectacle du budget et de tous les budgets pour l'opinion publique. Je pense que la plupart des gens comprennent absolument pas plus de quoi on parle. Hein, voilà, c'est incompréhensible. Il y a un budget qui est voté, puis finalement tout le monde vote contre et il passe au Sénat, etc. Et là maintenant sur la sécurité sociale, et comme le disait Valérie Lyon, avec des choses de fond qui sont énormes et que tout le monde comprend, on a tous compris que la France était un pays de vieux, maintenant qu'on devenait un pays de vieux, et qu'effectivement ces choses-là sont, donc c'est dommageable pour la démocratie. Ça veut dire que là, remettons-nous dans le sujet de tout à l'heure de la Chine, ou bien de la Russie, ou bien, c'est-à-dire que c'est des pays qui sont des dictatures et qui disent, ben voyez ce que c'est, les démocraties, ça marche pas. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant. Moi, la démocratie, ça doit être le temple de la raison, ça doit être des gens qui se mettent ensemble pour dire, voilà ce qui est l'intérêt de la France, l'intérêt du pays, et on n'arrive pas à voir ça. C'est très déprimant, franchement. On arrive à Noël, moi j'ai pas envie de fêter Noël après une année pareille. C'est horrible pour un démocrate de penser que notre système est grippé à ce point-là, quoi.
Richard Verdi.
Qu'est-ce que dit un Suisse?
Moi, l'éloge de Sébastien Lecornu, j'ai quand même un petit peu de mal. Parce que un homme d'État, c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, sait conclure un accord ou sait revenir sur une position pour l'intérêt du pays. Et mais pas pour son intérêt personnel. Dans le cas de figure actuel, le retour au 49-3, il est peut-être bon pour l'intérêt du pays. Je dis peut-être, puisqu'on n'est pas au bout de la discussion parlementaire. Mais la vraie question, c'est celle-là, il devrait y en avoir qu'une seule. Qu'est-ce qui est bon pour le pays? Pour que le budget ne soit pas un budget complètement dingue, compte tenu des contraintes financières de la France et des contraintes démographiques, vous l'avez expliqué. Ça, ce serait le rôle de Sébastien Lecornu, c'est-à-dire de rappeler les formations politiques auxquelles il a fait des concessions. La suspension de la réforme de retraite en est une très importante. Qu'on ne peut pas tout avoir. Un gouvernement, dans une démocratie parlementaire, lorsqu'il y a une coalition, chaque parti de la coalition n'obtient jamais tout. Il obtient un ou deux éléments symboliques et il doit faire des concessions sur le reste. Je constate que ce n'est pas, semble-t-il, d'après ce que je comprends, la stratégie de Sébastien Lecornu. Ce qu'il essaye de faire, c'est de dire aux partis, je vous ai donné l'abandon du 49-3, maintenant vous me devez quelque chose. Mais c'est pas ça. Être un homme d'État. Mais le budget, il n'est pas là pour contenter les partis politiques, à moins que la France soit différente des autres pays, ce qui est possible après tout peut-être. Il est là pour permettre aux finances publiques de ce pays de fonctionner et pour permettre à l'économie, si possible, de fonctionner. C'est ça le seul impératif.
Mais l'accord de départ, c'est les socialistes disent si on part dans une négociation de compromis, le Parti socialiste s'avance là-dessus en septembre, je crois, ou au début, oui, en septembre, eh bien, en échange, vous abandonnez le 49-3. Donc lui, s'il dit « j'utilise le 49-3 », le Parti socialiste, de manière tout à fait logique, va dire « eh bien, tu as rompu ta promesse, je romps la mienne, je vote la censure ».
C'est pas tout à fait ce que j'ai compris quand j'ai écouté certains dirigeants.
C'est tout la complexité, c'est-à-dire que le 49-3...
C'est le spectre de la censure qui est toujours là.
Le 49-3 a été réclamé par Bruno Retailleau ce matin. Marc Fesneau du Modem n'est pas contre non plus François Hollande, ancien président de la République, nouveau député de Corrèze, qui dit qu'on ne doit pas se priver de toutes les possibilités constitutionnelles. Donc en fait, il y a un certain nombre de socialistes qui se disent bah, pourquoi pas après tout, après l'avoir réclamé. Donc en fait, les choses sont très mouvantes. Et vous l'avez dit, Gérard Charles.
On peut imaginer le gouvernement d'ici une semaine dire bon, allez, on n'a plus le choix, 49-3.
Pour l'instant, ils n'ont pas changé d'avis. Mais si on parle de l'intérêt supérieur du pays, ça, c'est ce que tout le monde dit. Tous les camps disent au nom de l'intérêt supérieur du pays, j'ai raison. Donc, on verra comment ça se termine. Mais in fine, et ils le voient, et on se rapproche des municipales, et on se rapproche de la fin de l'année, les Français leur demandent de s'entendre et d'arriver à un budget, quelle que soit la formule. Ils voient bien que tout le monde tire à U et à Dia, mais à la fin, il faut un budget pour ce pays. Entendez-vous? Voilà, je pense que c'est devenu tellement technique et tellement compliqué qu'on ne sait plus trop à quoi s'en tenir. Mais
ils voient bien Sébastien Lecornu,
Elisabeth Pinault. Ils le demandent sur les marchés, ils nous en parlent.
Hein. Sébastien Lecornu, il voit bien que sa méthode du compromis est compliquée. Il le dit d'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure à l'Assemblée, dire le compromis, il faut en avoir envie. Qui en a envie aujourd'hui?
Quand même, la notion de départ, l'idée de départ, c'était quand même qu'il y avait une majorité contre la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc là, on a sans doute une majorité, peut-être courte, mais il y a quand même une majorité de parlementaires qui veulent un budget pour ce pays. Parce que si on ajoute le Rassemblement national, plus leurs alliés de Ciotti, plus la France insoumise, ça fait 210 députés. Et pour la majorité, c'est 289. Alors ensuite,
qui va voter quoi. Je ne sais pas si vous allez en parler, mais enfin, on est Édouard Philippe, donc mm-hmm. il n'est pas sûr de voter pour. Donc ça, c'est une trentaine de députés qui vont faire défaut et ça peut faire basculer. Mais ils font aussi monter les enchères. On est aussi à un moment, je le disais tout à l'heure, là, on s'approche, le compte à rebours est vraiment lancé. On est début décembre. Il faut qu'en moins d'un mois, on arrive à quelque chose, si on y arrive. Sinon, ensuite, ce sera d'autres sortes de couperets. La loi spéciale, ça veut dire que tous les parlementaires reviennent la discuter, on repart à zéro en janvier, alors qu'ils veulent être tous sur le terrain avant les municipales et puis en ce début d'année. Ils y pensent aussi, hein, au calendrier politique.
Édouard Philippe, effectivement, ancien Premier ministre, maire du Havre, patron du parti Horizon, qui a dit qu'en l'état, il ne voterait pas ce budget de la sécurité sociale. Valérie Lyon, est-ce que Sébastien Lecornu s'attendait à une attaque de ce côté-là?
En tout cas, on voit quand même que Édouard Philippe, entre son appel à la démission d'Emmanuel Macron, maintenant le fait de dire qu'il ne voterait pas, il a un irritant qui est très clair, qui est la suspension de la réforme des retraites, hein, qui est aussi d'ailleurs pour les Républicains. Après, il faut quand même rappeler que Édouard Philippe, c'est un peu lui qui a fait capoter le premier projet de réforme de retraite d'Emmanuel Macron, la retraite à points, en fait, parce qu'il voulait, dans ce système de réforme de retraite à point, remettre la borne d'âge qui en fait faisait pas partie de la solution en quelque sorte. Bon, donc il y a quelque chose d'un peu, alors je vais pas dire comique parce que comme l'a dit François Reinhardt, rien n'est très drôle dans cette affaire, mais bon, de voir quand même, si on parle de la responsabilité justement de nos politiques, il faut quand même s'interroger, parce que si le budget de la sécurité sociale n'est pas voté, ça sera encore plus difficile de voter le budget de l'État derrière. Donc c'est une première étape qui est un peu essentielle. Si on arrive à trouver le compromis là-dessus, ça donne un peu de souffle. Je parle sous le contrôle d'Elisabeth Pinault, mais ça donne un peu de souffle pour ensuite tenter de réussir quelque chose sur le budget de l'État. Donc c'est crucial, là, ce qui se passe sur la sécurité sociale. Et c'est vrai que la sortie d'Édouard Philippe, elle interroge.
Quand on regarde ce que fait justement Édouard Philippe, je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre, on en revient aux critiques qui ont été émises plusieurs fois, que ce soit par la porte-parole du gouvernement, que ce soit par le Premier ministre lui-même, sur les ambitions pour 2027 qui sont aiguisées et que finalement personne n'arrive à mettre de côté pour justement arriver à ce budget, François Reinhardt.
Et il a quand même trois ministres au gouvernement, il y a quand même trois, ça me paraît incompréhensible, moi je n'arrive pas à comprendre à quoi il joue, Édouard Philippe. Édouard Philippe, il avait un boulevard qui était l'homme responsable, celui qui va rassurer tout le monde et qui va essayer de rassembler les Français face à un candidat d'extrême droite. C'était ça, c'est ça son ce qu'on peut imaginer comme rôle. Et là, en demandant ce que Macron abandonne son poste, etc., il joue contre les institutions. Enfin, il y a quelque chose qui est très étonnant. Et maintenant, en disant, je ne vais pas voter un budget qui est proposé par un gouvernement dans lequel il y a des ministres à lui, alors qu'il appartient au bloc qui est le bloc gouvernemental, c'est incompréhensible, quoi. C'est l'homme qui tire dans ses chaussures tout le temps, quoi.
Comment vous la comprenez, sa stratégie, Elisabeth Pinault? On a vu justement qu'après son appel à la démission d'Emmanuel Macron, les enquêtes d'opinion n'étaient pas favorables pour lui, il avait dégringolé.
La trahison, ça ne plaît pas forcément beaucoup à l'opinion, y compris dans son propre camp, il y a eu des incompréhensions. Hein, pourquoi dire cela aussi violemment à ce moment-là, mettre un couteau dans le dos du président à ce point? Bon, ce n'est pas le premier collaborateur qui trahit pour ensuite avoir de plus grandes ambitions, hein, Emmanuel Macron est passé par là, mais néanmoins... Édouard Philippe est dans une situation très inconfortable puisqu'il doit se détacher d'Emmanuel Macron, dont elle a été le Premier ministre pendant 3 ans. Et puis, il se prépare pour 2027. Il est candidat, il l'a dit, alors que d'autres n'ont encore rien dit.
Il est le seul.
Peut-être c'est une force, absolument. Je ne sais pas, les Gérald Darmanin, par exemple, ils n'ont pas encore dit, ils n'ont pas encore dévoilé leur jeu. Donc, il a écrit un livre ou deux, il a fait le Tour de France, on l'a vu beaucoup, à bas bruit, il a essayé de tracer un peu son sillon, mais il est dans une situation très inconfortable puisqu'il perd du terrain en effet. C'est très difficile d'être l'opposant tout en étant comptable de ce bilan qui n'est pas simple. Où est-ce qu'il se place par rapport à la droite, par rapport au centre? Les municipales arrivent, qu'est-ce qui va se passer pour lui au Havre? Et puis derrière, ça pousse évidemment. Gabriel Attal se prépare, d'autres aussi, Bruno Retailleau, et on pourrait en citer d'autres. Donc il a décidé de jouer sa partition en partant très tôt. Mais les obstacles sont déjà face à lui et il est dans une situation très inconfortable vis-à-vis du pouvoir sortant.
Valérie Lyon ou Richard Verdi?
La réalité, c'est qu'Édouard Philippe, il a, lui, alors objectivement, intérêt au 49-3. C'est-à-dire qu'il a intérêt, parce que ça lui permettrait de ne pas assumer le budget, lui, Édouard Philippe, de dire au fond, il faut que le gouvernement, on ne va pas renverser le gouvernement, parce que là, c'est la stabilité du pays qui est en cause, mais ce budget, c'est pas le mien, c'est pas celui de mes députés, j'y étais opposé, ça lui conviendrait bien, le 49-3, parce que si ses députés votent, ça veut dire qu'il a accepté, effectivement, la réforme des retraites, à laquelle il ne souscrit pas, et très franchement, avec un certain nombre de raisons, il ne faut quand même pas l'oublier, ne pas souscrire à la suspension de la réforme des retraites, c'est que ça peut quand même être aussi justifié au regard d'un certain nombre de critères. Donc je crois que c'est peut-être ce qu'il essaye de faire, lui, c'est de pousser Sébastien Lecornu vers le 49-3, et Sébastien Lecornu résiste, puisque vous avez compris qu'au fond, entre les deux, il y en a un qui restera à terre.
Le plus terrible, c'est que finalement, personne ne veut être pris en train de voter ce budget. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même
le plus effarant. Personne ne veut pas avoir l'air de le faire tomber non plus.
C'est ça, le plus effarant dans l'histoire. Donc, on est dans une espèce de paralysie assez délirante, en fait.
Et on entend beaucoup Elisabeth Pinault dire que la semaine est décisive. Qu'est-ce qui se passe si finalement le gouvernement ne vient pas à ce 49-3 et qu'aucun parti n'arrive au compromis?
Ah ben, ce sera sans doute une loi spéciale pour le budget, en tout cas, qu'il faudra. Donc on repart.
Et sur
à
la
zéro.
Sécurité sociale, sur le projet de la Sécu.
Il faudra que le gouvernement procède par ordonnance, je crois.
En fait, ça reconduit automatiquement le budget de l'année d'avant. Oui, en fait. Donc on repart sur le même budget
juridiquement, en fait. Avec le même budget qu'il y a jusqu'à présent, et ça coûte beaucoup plus cher. Enfin, Amélie Bonchalin l'a expliqué toute la journée. Ça coûte. On arrive à 29 milliards au lieu de 23 et 17 sur le papier, je crois.
17,5 au départ.
Moi, j'entends bien ce que disent mes camarades sur le côté irritant de la suspension de la réforme des retraites pour la droite ou pour Édouard Philippe, mais je ne comprends pas pourquoi ça l'est. On parle d'une suspension de la réforme des retraites. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des gens qui... Enfin, le PS, en l'occurrence, qui n'était pas pour cette réforme, on va la suspendre. Édouard Philippe dit qu'elle est nécessaire pour le pays, etc. Eh bien, elle est suspendue et il y aura des élections. Et aux élections, les Français décideront s'ils sont pour le camp qui est pour cette réforme ou contre le camp qui est pour cette réforme. Ça va être décidé par une élection, c'est tout à fait légitime, et on est dans des procédures de compromis, donc il faut bien faire des compromis, il faut que le pays avance.
Et on poursuivra le débat une autre fois, vous entendez cette petite musique, c'est déjà la fin des informés à la une du Nouvel Obs cette semaine, François.
Alors, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le service public, c'est une sur Pascal Praud, et voilà, le célèbre le journaliste de CNews, hein, qui fait une campagne contre le service public, donc nous défendons le service public dans le Nouvel Obs.
Et je rappelle aussi le titre de votre livre, François, l'histoire du monde passe par Paris, vie et destin des exilés dans la capitale. Valérie Lyon à la une de la Croix demain.
Réseaux sociaux, accès interdit, puisqu'à partir de demain en Australie, les réseaux sociaux seront interdits aux adolescents de moins de 16 ans, en tout cas dès demain pour Facebook et Instagram, et à partir du 10 décembre pour tous les autres. Donc on essaye de voir si ça peut fonctionner, s'il y a un exemple dont on pourrait s'inspirer.
Et votre livre à vous sort aussi demain, Comprendre les Canadiens, Richard Verly, votre livre à vous, cette Amérique qui nous déteste. Merci Richard d'être venu ce soir, merci Elisabeth Pinault. Les informés reviennent bien évidemment demain matin à 9h. Très bonne soirée à tous sur France Info.
France Info, la nuit, l'info revient dans un instant.